conseil de discipline de Jean-Paul Nozière.
Lu par les élèves de 3e B du collège François Laurent de Moncontour. Mardi 12 avril.
Ce n'est jamais agréable pour un chef d'établissement de présider un conseil de discipline. Celui-ci sera le pire de ma carrière. Je crains, hélas, d'en deviner le verdict. Il est inéluctable. Même si nous conservons les formes et la mise en scène légale, comme si une autre décision pouvait être prise à l'issue de notre réunion. Pourtant, Jonas Merle est sans conteste le meilleur élève de 3e qui ait jamais eu le collège Anatole France. Vous connaissez tous le dossier. Malo Petit-Jean, professeur de mathématiques, nous en rappelle cependant l'essentiel.
Malou Petit-Jean est une jolie femme brune de 40 ans. Elle déteste être là, dans la salle de conférence transformée en tribunal. Une mauvaise journée. Elle n'a pas eu de chance. 3 jours plus tard, elle accompagnait une classe en Italie. Un collègue l'aurait remplacée. Le destin de Jonas Merle est écrit, ainsi que l'annonce le principal, Pierre Genet, dont les traits tirés de la peau grise rencontrent l'angoisse et la tristesse.
Jonas...
Elle tout saute, écarte une mèche de cheveux collée à sa tempe droite. La pièce est une étuve. Elle pue la poussière, le renfermée. On l'utilise rarement. Jonas a 18 de moyenne en maths. Merde, pourquoi c'est elle qui doit dire à quel point il est fou? Probablement dangereux. Qu'il faut le virer d'Anatole France illico, sans doute le placer dans un établissement spécialisé.
Chez les dingues,
songe furtivement Malou Petit-Jean, avant de prendre sa respiration et de se lancer dans la lecture du texte que lui a refilé l'administration.
Tout le monde l'a sous les yeux. Alors à quoi bon ce cirque ? Jonas est passé plusieurs fois en conseil de discipline durant ses 2 années de présence au collège Anatole France. Il a été puni de 3 jours d'exclusion, puis de 4 jours, et enfin de la plus lourde sanction jamais donnée ici, 1 semaine hors de nos murs. La liste des faits est longue, vous avez sur une feuille annexe la description des principaux actes reprochés à Jonas. Mais...
Malou Petit-Jean devine que ses lèvres clapotent par-dessus ses dents. Elle connaît l'avertissement, les larmes ne vont pas tarder.
Vous vous sentirez assez forte pour dresser l'acte d'accusation ?
Avait demandé Pierre Genet la veille en la recevant dans son bureau.
Non, absolument pas.
Le patron avait fait grise mine, elle s'était empressée de sourire et de corriger.
Personne ne le saura, mais j'irai. L'absence de Jonas rendra les choses plus faciles.
Depuis 15 jours, le gamin refuse de venir au collège.
Il ne viendra plus, plus jamais, et il n'a pas tort,
a annoncé sa mère. Rosemère est assise à un bout de l'immense table ovale du conseil de discipline. Une femme infime, presque naine. Sa maigreur anorexique détourne les regards vers un ailleurs moins embarrassant. Depuis qu'elle s'est assise, elle n'a prononcé que 2 phrases.
Pourquoi vous voulez exclure mon Jonas du collège, puisqu'il n'y remettra plus jamais les pieds? À quoi rime ce bordel?
Le principal devine que la prof de maths perd pied, que ses pensées s'égarent vers le sombre destin qui attend le gamin de 15 ans qu'il faut pousser hors des murs de l'établissement avant qu'un drame ne se produise. Il intervient après avoir frappé son dossier du plat de la main, une claque bruyante qui fait sursauter son voisin de gauche.
Mesdames et messieurs, vous avez connaissance des faits anciens. L'exclusion de Jonas, à plusieurs reprises, s'est avérée inutile, puisque durant le mois dernier...
Pierre Genet repousse ses lunettes contre son front. Il se penche sur son dossier, très près, comme s'il voulait s'assurer de ce qu'il lit. À moins que ce ne soit la fatigue qui plie son dos. On distingue les cernes épais sous les yeux. Même si les verres de loupe des lunettes les exagèrent, ils trahissent les nuits sans sommeil mieux que des mots.
Durant le mois dernier, Jonas Merle a appelé les pompiers en prétextant un incendie au collège. Un scénario identique s'est répété avec la gendarmerie alertée parce qu'un individu armé d'un fusil menaçait les élèves dans la cour de récréation. Enfin, Jonas est fortement soupçonné d'être l'auteur d'une alerte à la bombe.
Il n'y a aucune preuve pour cette histoire de bombe,
corrige le conseiller d'éducation. Des sourires apparaissent sur les lèvres des 15 personnes présentes. Le plus net est celui de Rose Merle. Elle est encore plus convaincue que les autres de la culpabilité de son fils. Un silence accablé suit l'énumération des exploits de Jonas. Chacun médite. Que dire? Les faits sont consternants. D'autant plus consternant que tous savent que l'acte d'accusation comporte un autre paragraphe, plus désastreux encore. Le gestionnaire du collège soupire et se jette à l'eau.
Que ce gamin soit un mythomane n'est un secret pour personne. D'ailleurs, ses camarades lui ont donné le surnom de mytho. Ça veut tout dire.
Des camarades? Personne ne lui parle. Il ne parle à personne, sauf à Emma Beltoise, sa voisine de table en cours de français. Elle est la seule à s'intéresser à lui. À ce train-là, si ça continue, Jonas perdra l'usage de la parole. Il ne prononce quasi plus un mot en cours.
La mythomanie, oui, oui.
Commente un homme corpulent, chauve, un des trois parents représentant les familles.
Si je comprends bien les informations transmises, le plus grave est que cette mythomanie amuse ce garçon. Non seulement il ne regrette aucun de ses actes, mais il éclate de rire quand on lui en parle. Même les menaces des gendarmes restent sans effet.
Il se penche lui aussi, rive son regard au dossier, comme s'il s'attendait que les notes le tirent du guépier dans lequel il s'est fourré, en mettant un avis si dépourvu de compassion. Un nouveau silence suit, l'homme se sent obligé de tirer une conclusion.
À ce stade-là, la mythomanie de Jonas Merle devient... Elle devient...
Il hoche la tête à plusieurs reprises, cherchant ainsi à expulser les mots qui coincent quelque part au fond de la gorge.
Devient une maladie mentale.
Il relève la tête, croise des regards effrayés, il a dit ce que tous savent, mais ne voulait pas formuler en public. Il enfonce le clou.
La folie, quoi, soyons clairs, mais la folie à l'intérieur d'un établissement scolaire...
C'est comme un coup de massue. Folie, établissement scolaire. Les images défilent dans les têtes. Celles de la télévision, à l'heure des informations, aux États-Unis surtout, mais en France aussi et ailleurs. La violence, le sang, la mort, la folie meurtrière qui franchit les murs d'une école.
Oui, je crois que nous pouvons utiliser ce mot. Un établissement scolaire n'est pas préparé à de tels comportements. Il ne peut pas corriger ce genre de trajectoire humaine déviante.
Il se frotte le visage, la main froisse, la peau terne, fatiguée et les plis s'effacent lentement. Pourtant, Pierre Genet n'a que 40 ans.
Nous aurions pu accorder une dernière chance à Jonas.
La salle se crispe. Inquiétude, une chance, le principal s'en aperçoit.
Oh, c'est un grand espoir, en le changeant d'établissement.
Il veut plus aller à l'école, mon Jonas.
Gronde la voix de la mère, mais personne ne prête attention à elle. Elle a bu, ça se voit, ça se sent aussi, et ses voisins de table ont éloigné leurs chaises au maximum.
Peu importe ma remarque d'ailleurs, puisqu'un élément nouveau est intervenu. Maintenant, le danger devient trop grand pour que nous envisagions de courir un risque. Il y a 15 jours, Madame Norlac, professeure de français de la classe, a eu la dernière rédaction de Jonas. Vous en connaissez à peu près le contenu, mais elle ne figure pas dans le dossier afin d'éviter qu'elle soit divulguée à l'extérieur du collège. C'est pourquoi je demande à Madame Norlac de vous lire la rédaction de Jonas Merle.
Julie Norlac tressaille, une belle femme rousse au corps ample. La copie de Jonas tremble entre ses mains.
Le sujet était...
Elle se mord la lèvre, comme si elle regrettait d'avoir donné ce sujet, comme si en définitive, tout était de sa faute.
Le sujet était raconter un événement réel qui a marqué votre vie. Jonas n'a fait aucun effort d'écriture, ni obéi aux consignes traditionnelles. Plan, respect des temps, de la grammaire, etc. Voici ce qu'il écrit.
Elle exhale une grande bouffée d'air, censée peut-être éventer son visage très rouge. Elle incline la tête, lit d'une voix morne, comme si elle prenait connaissance de la notice d'utilisation d'un nouvel appareil. Tous s'aperçoivent qu'elle le fait exprès.
J'ai assisté à l'enlèvement de Rebecca Toury, le mercredi 28 mars, presque quand c'était nuit, dans le parc du lac. Je m'étais tirée parce que ma sœur me l'est cassée avec son émission à la con, à la télé qui gueule. Rebecca faisait du jogging autour du parc, Fourniret faisait pareil. Fourniret a abordé Rebecca, il lui a raconté des trucs marrants, parce qu'après ils ont couru ensemble en rigolant. Il ne me voyait pas, je me planque derrière la baraque du jardinier pour fumer un joint. Il n'y avait personne d'autre dans le parc, qui ferme à 19h. Et pour entrer, il faut sauter par-dessus la grille, et personne n'a envie de se taper la grille pour se trouver dans le parc éclairé rien que par les lampadaires. À un moment, ils sont passés de l'autre côté du lac, et je les vois bien. Fournirait plaque Rebecca au sol, il lui serre le cou, alors elle peut pas crier, et il la traîne derrière les buissons, là où les flics l'ont récupérée le lendemain, violée et étranglée. J'ai pas bougé, bonjour la trouille. Je me suis décidée à courir vers la grille, mais j'ai fait du bruit. Fournirait est sorti de son buisson. Rebecca était sûrement déjà morte. Et il a dû me voir quand j'ai escaladé la grille. Il a pu me reconnaître, j'en sais rien. En tout cas, il a crié « Je te tuerai aussi si tu vas à la police ». J'ai la trouille. Toute la ville connaît Fournirait. C'est un homme important, alors je ne peux pas aller à la gendarmerie raconter Rebecca. On me foutrait dehors en rigolant. Et Fournirait le saurait et me tuerait. Alors je l'écris dans ma rédac et on verra bien.
Julie Norlac se tait. Elle ne relève pas la tête. Elle ne regarde pas les membres du conseil de discipline. Elle regarde la feuille de copie de Jonas Merle. Le parent d'élève chauve prend la parole. Sa voix résonne d'une façon étrange en brisant le silence accablé.
Cette fois, ce garçon dépasse les bornes. C'est grave. Très grave. Inventer une histoire mélangeant l'atroce assassinat de Rebecca Toury dans le parc il y a 15 jours avec Fourniret, ce terrifiant assassin très médiatisé, jugé pour le viol et l'enlèvement de 10 jeunes filles et le meurtre de 7 d'entre elles, la mythomanie a bon dos.
Pierre Genet lève la main droite pour demander la parole.
Jonas confond réalité et télévision, ce qui est hélas de plus en plus fréquent chez nos adolescents, gavés d'images atroces et de virtualité informatique. Bref, nous n'allons pas ressortir les banalités sur ce sujet. Nous avons évidemment transmis la rédaction de Jonas à la gendarmerie. Je dois dire que le nom de Fourniret, condamné à la prison à perpétuité, a conduit les gendarmes à hausser les épaules. Néanmoins...
Il se tourne vers son adjoint, un homme grand, pâle, les cheveux emmêlés et la cravate vaguement de travers.
Néanmoins, nous ne pouvons pas courir le risque de garder Jonas Merle. Il doit être soigné et accueilli dans un établissement spécialisé.
Chez les fous, hein ! C'est ça que vous voulez ! Comptez pas que je vous autoriserai à faire une pareille saloperie.
Vendredi 15 avril, quotidien régional, Le Bien Public. Accident mortel hier sur la voie ferrée entre Dijon et Spange. Un train corail a heurté un adolescent, Jonas Merle, élève de 3e au collège Anatole France. La mort atroce du jeune homme pose plusieurs questions à la brigade de gendarmerie de Spange. Accident dû à une fatale imprudence? Suicide? Voire meurtre? Le conducteur du corail n'a pu apporter aucune précision. À cet endroit, la voie effectue une courbe dont le train sort à une grande vitesse, et lorsque le conducteur a entrevu des ombres, il était trop tard. Nous sommes cependant en droit d'interroger la SNCF. Pourquoi, alors que de nombreux trains circulent sur cette voie, son accès n'est-il pas protégé par une clôture assez haute pour en interdire le franchissement? La ville de Spange est endeuillée pour la seconde fois en moins d'un mois. Nos lecteurs se souviennent du meurtre de Rebecca Toury, cette jeune lycéenne de 17 ans, dont le corps a été retrouvé dans le parc du lac sans que l'enquête n'aboutisse à l'arrestation du coupable.
Lundi 18 avril, 20h. Le gendarme Hervé Beltoise dîne en famille. C'est assez rare. Il se contente souvent d'un sandwich à la fin d'une journée de travail qui se termine aux alentours de 23h. Aujourd'hui, il a demandé au lieutenant Dugour, le chef de la brigade, de lui accorder sa soirée. Il tient à être auprès de sa fille, Emma. Elle est bouleversée. Elle a assisté dans l'après-midi aux obsèques d'un camarade de classe, Jonas Merle.
Un drôle de Merle. Oui, celui-là.
Pense sombrement le brigadier Beltoise, avant de s'adresser à sa fille qui ne mange pas son omelette. Ses yeux sont rouges, elle a dû pleurer durant des heures.
« Tu es triste, Emma ?»
demande sautement son père. La mère hausse les épaules. Léa Beltoise, la quarantaine inquiète, elle supporte mal que son mari accorde tant de temps à son travail de gendarme et si peu à sa famille.
Elle sort du cimetière, Hervé. Jonas Merle n'avait que notre fille pour amie. Tu voudrais qu'Emma soit joyeuse ?
Le brigadier lève une main en signe de paix.
Ok, ok.
Il regarde sa fille, cherche à établir une complicité avec elle. Alors qu'il se rend compte que l'adolescence d'Emma lui échappe, il se parle de moins en moins.
Tu sais, Emma, je crois que Jonas n'était pas un garçon très heureux. Nous le connaissons un peu à la gendarmerie.
Emma se tait. Sa fourchette se contente de réduire à bouillie sa part d'omelette. Elle n'écoute peut-être même pas son père. Mais Léa réagit.
Ah bon? Pourquoi?
Le gendarme comprend qu'il en a trop dit. Il élude.
Oh, des histoires de collège. Des trucs idiots, sans importance. Une rédaction que nous avait donnée à lire Pierre Genet, le principal. Rien quoi.
Soudain, Emma réagit.
Je le déteste.
Elle a prononcé les mots entre ses dents, mais les parents ont entendu.
Tu détestes qui, ma chérie?
Le principal.
Pourquoi?
Il a viré Jonas du collège définitivement.
Le brigadier ne peut s'empêcher de grimacer.
Et alors? Le garçon est mort. Il était assez cinglé pour se balader sur une voie ferrée.
Pense à l'arrivée beltoise. Emma repousse au bord de l'assiette la débâcle d'omelette. Elle lève la tête, observe son père avec un visage dur et des yeux qui brillent de colère.
Ce salaud était à l'enterrement. Il a même été assez hypocrite pour faire semblant de retenir ses larmes. Jonas le détestait. Il avait peur de lui.
C'est normal. Jonas était un garçon difficile au collège. Et même si tu étais son ami...
Je m'en fous de tout ça. Jonas est mort. Je suis pas conne. Il est mort, papa, ça je comprends. Mort, mort, mort.
Elle éclate en sanglots, dit.
Le jour de sa mort, Jonas avait fait jurer de ne jamais approcher ce salaud principal. Il le traitait d'obsédé sexuel.
Elle essuie ses larmes d'un revers de main, écarte ses cheveux de son front et parvient à sourire.
Il lui avait donné un surnom. Il me l'a dit hier. Il appelait le principal Fourniret. C'est marrant, non?
Comment? Tu as dit comment?
S'étrangle le brigadier Beltoise. Il est très pâle, mais sa fille ne s'en aperçoit pas.
Fourniret! Michel Fourniret, tu sais, papa, le type qui a assassiné je ne sais combien de filles.
Oui, oui, je sais.
Balbutie Hervé Beltoise. Il quitte la table.
Je retourne au travail. Une affaire grave, très grave. Désolé. Conseil de discipline de Jean-Paul Nozière.
Lu par les élèves de 3e B du collège François-Laurent de Moncontour.